Si vous pouvez passer au passage du 1er Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, juste quelques versets, je vais les lire et vous pouvez suivre. Alors qu'on regarde ce passage, c'est un passage très court, mais je pense que c'est un passage très puissant également. Verset 23, « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. » Ça termine sur une grande promesse, n'est-ce pas ? Il le fera. Parfois, quand on réfléchit au sens de la foi, comme on le disait la semaine dernière, on a parlé de cette idée d'un évangile en quatre parties, à travers plusieurs perspectives, que Christ est notre sauveur, notre sanctificateur, notre guérisseur, le roi également qui arrive. On a dit, il s'agit tout de Christ, pas du salut. Il ne s'agit pas de la sanctification, de la guérison, du paradis, mais il s'agit de Christ et le fait que Christ est celui qui nous sauve. C'est lié à cette relation. On déconnecte le concept théologique d'une relation avec Jésus-Christ. Et on peut avoir tendance à se déconnecter de la puissance qui accomplit son travail en nous. Et on doit comprendre que toute cette idée est vitalement importante. C'est très simple. Vous pouvez dire, oui, je comprends. Mais c'est tellement facile de le rater. On aime déconstruire des idées en éléments très simples. Et on oublie que tout est connecté à cette relation avec Jésus et à investir du temps là-dedans. Je vous ai raconté la semaine dernière l'histoire de A.B. Simpson, qui est fondateur d'un mouvement dont on fait partie, comme William Carey a lancé un mouvement dans les années 1700, dans les années 1800. Il y avait des leaders comme ça qui ont lancé des mouvements, des missions, ce qu'on appellerait une vie plus profonde en Christ. Et il a écrit un hymne. Je vous ai donné le premier verset, mais j'aimerais vous donner aussi le deuxième verset de l'hymne. Et il me semble que ça sera à l'écran. L'hymne s'appelle « Lui-même ». Et c'est ce que ça dit, que Dieu lui-même vous sanctifie, comme dit la parole. Mais l'hymne dit « Avant, c'était de l'effort douloureux, maintenant c'est une confiance parfaite. Avant un salut partiel, et maintenant un salut absolu. Avant je m'agrippais sans cesse, et maintenant il me porte. Avant j'étais à la dérive, et maintenant mon ancre est ferme. » C'est des magnifiques mots, mais ils expriment comment on se sent parfois. L'effort douloureux, le salut partiel ne veut pas dire que vous êtes seulement partiellement sauvé. Il exprime juste le fait qu'on a besoin de comprendre qu'il y a plus une fois qu'on est en relation avec Christ, quand on lui permet de nous transformer. Et ça s'appelle la sanctification. L'idée de la sanctification signifie d'être rendu saint. Saint, ça veut dire qu'on est mis à part pour lui, séparé du mal et séparé pour lui. Souvent, on pense que la sainteté, c'est toutes les choses que je ne fais pas maintenant que je suis chrétien. D'ailleurs, beaucoup de gens dans le monde, quand ils pensent au fait d'être chrétien, ils pensent que c'est les peuples des ne pas faire. Ils ne font pas ça, ils ne font pas ça et ils ne s'amusent pas. C'est ça l'image. Je veux dire, maintenant, et je suis chrétien et je m'amuse. J'apprécie le fait d'être chrétien. Si certains d'entre vous dites on ne s'amuse pas, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous aider avec tout ça, parce qu'il y a beaucoup de joie. Il y a de la joie en Christ. Il y a de la joie dans la sanctification. La sainteté, ce n'est pas juste les choses que vous ne faites plus, c'est les choses que vous faites pour sa gloire et la vie que vous avez pour lui, avec lui, en vous et pour lui. Et on a besoin de comprendre ça. Alors bien sûr, il y a des choses que je ne fais pas en tant que chrétien que j'aurais peut-être fait quand je ne l'étais pas. Mais la réalité, c'est que ces choses que je laisse de côté, maintenant je tends vers les choses qu'il a pour moi, qu'il a mis à part pour moi. Et c'est ça que je veux découvrir. Donc la sainteté, c'est ce que Dieu veut, c'est normal. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il y a être chrétien et il y a être saint. Et c'est l'étape d'après. C'est comme à l'université ou à l'école. Vous avez, je fais mes devoirs, mais ma professeure me donne quelque chose pour avoir plus de points. Ça n'existe pas vraiment en France, mais... je suis content de prêcher ici parce que j'apprends toujours des nouvelles choses. Quand j'étais un enfant à l'école, on pouvait faire des choses qui étaient normales, les devoirs qui étaient normales, et on pouvait faire des travaux en plus, et vous pouviez avoir des points en plus, un A+. Parfois, on pense que quand on est chrétien, être chrétien, c'est la base, c'est ce qui est normal, mais être saint, c'est en plus. C'est seulement pour les super saints. Mais on est tous saints, on est tous censés être comme Christ, on est tous censés le suivre. Et voici la chose intéressante pour nous. Que suivre Christ, ce n'est pas juste l'idée de le copier, de l'imiter. Et bien sûr, il y a un aspect, on veut être comme Jésus et l'imiter. Mais si vous commencez comme ça, sans qu'il ait pu vous habiter, ça ne pourra pas arriver. Et c'est ça le problème pour nous. Ce n'est pas juste d'avoir des meilleures habitudes, c'est de l'avoir en nous. Ce n'est pas de l'amélioration personnelle, c'est que Dieu fait travailler sa puissance à travers vous. Dans le sens où vous êtes le gant et il est la main qui vous déplace, qui travaille en vous, dans votre vie, pour impacter les autres. Alors on va juste prendre quelques minutes et parler de ce que ce verset nous indique. Ce qui est intéressant dans ce passage, dans le verset 23, et la première chose qu'on doit comprendre, c'est que le Christ est notre sanctificateur. Il est le seul qui a la puissance de nous rendre saints, le seul. On ne peut pas le faire sans lui. Donc c'est la clé. Vous pouvez dire, maintenant que j'ai compris ça, qu'est-ce que je fais? Attendez juste une seconde, vous devez croire qu'il est capable de le faire. Et le verset 23 est une prière, c'est une bénédiction. L'apôtre Paul bénit l'Église et la congrégation. Et il dit que Dieu lui-même vous sanctifie. Et ce n'est même pas une simple parole. Vous devez comprendre que dans la langue originelle, c'est comme s'il le martelait. Il y a une phrase ajoutée. C'est pas juste Dieu, c'est que il dit que Dieu lui-même. Il veut insister dessus. C'est Dieu lui-même qui le fait. Et c'est vraiment lui à l'œuvre. C'est pas un cliché spirituel. C'est pas quelque chose que vous dites tout simplement parce que ça sonne bien. Pas juste un écriteau sur un mur, une citation. C'est pas juste une belle parole. C'est vraiment lui à l'œuvre. Et pour nous, il s'agit de lui permettre de réaliser ce travail. Ça implique pour nous que vous cultiviez sa présence. Et quand cette relation est à l'œuvre, c'est pas juste une vérité doctrinale, c'est la vérité d'une personne qui vit en nous. Donc ce travail sanctificateur, c'est le travail du Saint-Esprit en vous. C'est écrit également, il est fidèle, dans le verset 24, celui qui vous appelle est fidèle. Donc si vous croyez qu'il est fidèle, ça veut dire qu'il le fera. Ce n'est pas juste un souhait, c'est quelque chose qu'il met à l'œuvre. Parfois d'ailleurs, quand on chante, vous ne le voyez pas travailler, mais il travaille. Les choses dans lesquelles il travaille, c'est les choses que vous traversez actuellement. Il vous amène à lui. C'est dit qu'il vous sanctifie totalement, corps, esprit, âme, que chaque partie de ma vie, chaque relation lui appartienne. Donc actuellement, je suis sanctifié. Vous direz, est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûr. Je suis sanctifié, je suis mis à part pour Dieu. Mais je suis aussi en train d'être sanctifié. C'est un processus, un travail de transformation dans ma vie. Vous êtes dans ce processus de sanctification. Et ça dure toute la vie. Il y a un avenir. Vous serez sanctifié. Quand vous verrez Jésus face à face, vous serez changé profondément. Dans un moment, dans un instant, vous serez transformé et vous entrerez dans son image. Et cette pensée, elle me vient. On peut se dire, si ça arrive quand je vais mourir ou quand Christ revient, pourquoi est-ce que je ne fais pas juste ce que j'ai envie de faire en attendant ce moment? Ah, ça serait tellement plus facile. Bah non, ça ne le serait pas. Parce que ce n'est pas ce qu'il a pour vous. Ce qu'il voulait pour vous, c'est que vous grandissiez en lui chaque jour. Que vous marchiez avec lui à chaque instant de chaque journée. À devenir de plus en plus comme lui. Parce que la vie, c'est de marcher avec lui et de vivre cette vie abondante. Donc on veut cette relation. Et cette relation, elle nous transforme. Et elle commence à apporter une transformation. Et il va changer chaque aspect de notre vie. Notre relation avec lui, la manière dont on peut le comprendre, l'entendre, qu'il nous mène. Qu'on le comprend dans notre identité, que ça soit intégré à notre identité, que notre esprit soit renouvelé par la transformation, que nos corps soient utilisés pour sa gloire, qu'il soit cette chose magnifique qu'il a créée, même s'il est affecté par le péché. Il y a quand même quelque chose d'incroyable. On se soumet à lui, on soumet nos impulsions, chaque partie de nous lui appartient, même nos maux, nos souffrances lui appartiennent. Et donc quand on fait ceci, en étant des gens qui ont été créés en son image, il nous transforme pour ressembler de plus en plus à son image et qu'on puisse devenir de plus en plus comme il voulait qu'on soit. Il nous a créés, on a été affectés par la chute et maintenant il nous restaure à ce qu'il voulait qu'on soit. Donc, quelle doit être notre réponse? C'est simplement de se soumettre à ceci. On doit travailler avec lui et le laisser travailler. Il ne faut pas lutter contre. Quand on vient à Christ, ce n'est pas juste pour sortir de l'enfer et pour entrer au paradis. On va vers Christ parce qu'il nous aime et parce qu'il veut être avec nous et nous rendre flambant neuf. Et nous, on le veut, c'est ce qu'on l'attend. Et on place tout dans ses mains, on doit se soumettre à lui. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 6, on est rappelé qu'on est acheté avec un prix, on ne nous appartient pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se soumettre à lui. Donc on arrive à cet instant où il est au travail en nous et on soumet chaque aspect de notre vie. On reconnaît qu'il y a plus. Et on peut aussi arriver à un moment où on peut être en crise. Quand on se soumet entièrement à lui, on dit tout ce que j'ai t'appartient, Mais dans la vie, vous vous rendez compte que peut-être que certaines choses que vous avez soumises à lui, peut-être ne le sont plus. Peut-être qu'il y avait des choses également que vous ne, dont vous n'aviez pas connaissance. Et vous traversez votre vie et vous vous rendez compte que, par exemple, est-ce que mes enfants appartiennent à Dieu ? Ou est-ce que mes petits-enfants appartiennent à Dieu ? Est-ce que je lui ai laissé tout ça ? Je vous donne un exemple. J'ai deux petits-enfants. Ils sont à plusieurs milliers de kilomètres. Et je n'y suis pas. Bien sûr, quand j'étais aux États-Unis, et ils vivaient à une cinquantaine de kilomètres, c'était beaucoup plus près. Mais actuellement, je ne peux pas être avec eux à chaque instant. Mais je les laisse dans les mains de Jésus. Ils lui appartiennent. Mes enfants lui appartiennent. Ma femme lui appartient. Elle va prendre un avion demain, elle va les visiter. Et sa mère. Et je la laisse dans les mains de Jésus, parce qu'elle lui appartient. Elle est le don de Dieu pour moi. Et parfois, la question, c'est que est-ce que j'ai le meilleur côté ? Est-ce que j'ai gagné dans l'échange ? On ne va pas en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que elle appartient à Dieu, notre mariage appartient à Dieu, notre appartement appartient à Dieu, notre ministère appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Mais je dois lui faire confiance avec tout ça. Alors, voici le défi pour moi, c'est que cet aspect continu de la soumission, je me soumets à Dieu, mais ce n'est pas fini. Il faut que je reste dans cette soumission. Et parfois, ces doutes peuvent revenir à la surface, et en général, ça arrive dans des périodes de conflit, ou quand quelque chose ne se passe pas comme je le veux. Voici ce qui arrive. Je vais juste vous donner un exemple. Souvent, quand quelque chose nous arrive, soit petit, soit grand, on a une tendance à avoir une réaction de colère, de rejeter la faute, d'être dans la vengeance. Je vous donne un exemple. Je conduis pour aller à l'église. Je suis en retard. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais à l'heure. Mais j'ai été en retard. Je suis derrière une autre voiture et il roule à la limite de la vitesse, peut-être un petit peu en dessous. Et je m'énerve contre eux parce qu'ils m'empêchent d'arriver à l'église à l'heure. C'est tout leur faute. Alors, bien sûr, vous n'avez jamais eu cette expérience. Et ceux qui êtes uniquement à un vélo, et je sais qu'il y en a quelques-uns ici, ou le tram, c'est pour ça que vous prenez le tram, parce que vous êtes en paix. Mais ce n'est pas leur faute que je me suis réveillé tard et que j'ai perdu du temps. La question ne devrait pas être qu'est-ce qu'ils font envers moi. La question, ça devrait être: Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai ces sentiments? Qu'est-ce que tu me montres à travers ceci? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en paix? Quel aspect de ma vie est-ce que je dois soumettre à toi? Non, on joue à la victime, et c'est tellement facile de jouer à la victime, d'avoir de la colère et de rejeter la faute. Je vous donne ces petits exemples parce que je sais qu'ils sont très faciles à comprendre et ne sont pas aussi douloureux. Quand vous perdez vos clés ou quelque chose d'important, combien d'entre vous avez déjà eu le sentiment, quand vous avez perdu vos clés ou votre portefeuille, qui me l'a pris? Où est-ce que ma femme a mis mon portefeuille? Comment est-ce qu'elle a osé le déplacer? Plutôt que de me poser la question, c'est ma faute. C'est pas elle. Et je me rends toujours compte que c'est pas elle qui l'a déplacé, c'était moi, mais j'ai juste oublié où je l'avais mis. Alors je vous donne des petites choses, mais ce que je veux dire, c'est si vous regardez la vie comme une victime, toujours à remettre la faute sur les autres, plutôt que de regarder les défis que vous traversez, Même s'il se trouve que quelqu'un vous a persécuté, hein, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas nous faire mal, parce que ça arrive, mais ma réaction envers cette douleur, c'est une opportunité, c'est une occasion pour demander à Dieu s'il veut vous montrer quelque chose que vous n'avez pas totalement soumis. Mon rôle avant ceci, c'était de superviser des églises, de résoudre des conflits. Vous serez peut-être émerveillé et étonné de ce que je vais vous dire, mais souvent dans les églises, on ne s'entend pas très bien. Et en général, c'est parce que quelqu'un a mis la faute sur quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre a mis la faute sur quelqu'un d'autre, et on choisit des camps, et aucun des deux parties ne souhaite regarder leurs propres problèmes. Venir vers Jésus et de regarder ce que Dieu voulait leur apprendre avant de se rencontrer et de s'accuser. Si seulement ils avaient fait ça, ils se seraient économisés tellement de douleurs et d'être un mauvais témoignage de Jésus-Christ. Et Seigneur, dans les défis de ma vie, qu'est-ce que tu permets d'arriver pour comprendre que je dois me soumettre à toi? Quel compartiment de ma vie est-ce que je dois te soumettre? Vous serez émerveillé de voir comment Dieu va vous transformer, vous rendre à son image, va vous mettre dans sa paix. Il est le Dieu de la paix. Que le Dieu du repos vous sanctifie, que le Dieu de la satisfaction vous sanctifie. Le Dieu de simplement se reposer en lui et de lui faire confiance et d'être en relation avec les gens dans une relation de confiance. Quand je regarde mon propre péché, vous savez ce qui m'arrive? Je suis beaucoup plus enclin au pardon. Je l'ai dit il y a quelques dimanches, je ne sais plus exactement quand, mais si on commençait à prier pour les gens qui nous font mal, on commence à développer une prière de compassion, pas une prière de jugement, mais une prière pour eux, que Dieu travaille en eux, même s'ils nous ont fait mal, même s'ils sont un ennemi. Je prie pour mes ennemis et soudainement je vois la vision de Dieu pour eux et Dieu commence à me transformer moi en priant pour eux. Et j'y gagne dans ce processus. La sanctification, c'est d'être dans cette vie avec Jésus, d'être avec lui et de lui permettre de réaliser ce travail. La bonne approche pour nous, c'est de vous poser cette question: d'où est-ce que cette émotion vient? Qu'est-ce qu'il se passe en moi qui m'a fait réagir de cette manière? On se soumet à Dieu et on traverse notre vie et il est fidèle et il va nous transformer. On vit dans une culture de la victimisation. Il faut qu'on commence à prendre responsabilité pour nos propres actions et permettre à Dieu de travailler en nous. Alors, quelle est la première chose qu'on doit faire dans ce processus de sanctification? La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre connaissance qu'on a besoin de Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas devenir une meilleure personne. Je peux uniquement devenir la personne que tu veux que je sois et me soumettre à ton changement. Et je dois rester en relation avec Dieu. C'est toujours une relation avec Dieu, avec le sanctificateur. Que ce soit un petit moment ou un grand moment, n'oubliez pas que la sanctification, c'est une relation. Et n'essayez pas de soumettre de vous-même, mais soumettez-vous dans sa présence. Et laissez-le lui montrer les choses que vous devez lui apporter. Soumettez tout ce que vous connaissez de vous-même à Dieu. Peut-être que vous ne connaissez pas tout, mais tout ce qu'il révèle, soumettez-le lui. Et si ça refait surface, soumettez-le. Ayez cette croyance qu'il vous a sanctifié et lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Prenez ce verset 24. Celui qui est fidèle, il le fera. Je vais marcher en obéissance avec toi. Est-ce que ça veut dire que vous serez parfait? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que vous allez rentrer dans un mur? Bien sûr que non. Mais quand vous le faites, vous vous resoumettez à lui. Parce qu'il aime nous garder dans cette zone de dépendance. Choisissez le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, il dit qu'il faut cultiver la paix, l'amour, la compassion, qu'il faut cultiver tout ça pour rester en relation avec, avec Dieu. Et continuer de soumettre les zones qu'on ne connaît pas, les choses qui sont sous la surface. Je ne suis pas aussi jeune que je ne l'étais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous ne me connaissiez pas avant, mais j'étais plus jeune, fut un temps. Et je veux vous dire, je continue d'apprendre des choses que je dois soumettre à Dieu. Alors je vais me jeter à l'eau. Il y a peut-être d'autres gens dans ce bâtiment qui sont plus vieux que moi. Mais je pense que si je leur demandais, est-ce que vous soumettez encore des choses à Dieu ? Ils diraient probablement oui. Pourquoi est-ce que tu as répondu aussi vite, Paul ? Et vous pouvez tout soumettre. Mes conversations avec Patrice, de lui soumettre votre business, votre mariage. Si vous êtes célibataire, de vous soumettre vous-même en tant qu'individu, mais aussi vos futures relations. De soumettre votre temps, soumettre votre service, soumettre vos amitiés, tout soumettre. Il est Seigneur, mais c'est un Seigneur aimant. Il est plein de compassion. Soumettez le fait d'être parent, le fait d'être grand-parent, d'influencer d'autres personnes. J'avais en tête une image. Et j'ai une autre citation aussi. Et elle n'est pas à l'écran, mais je vais la partager avec vous et après je vais vous donner une image. Avant qu'A.B. Simpson écrive cette hymne, il a fait un prêche. Et voici un petit extrait du prêche. Il a dit : je n'ai jamais eu autant de sainteté ou de guérison à un moment que je n'en avais besoin à ce moment. C'est comme si le Seigneur m'avait dit : mon enfant, tu dois venir à moi pour ta prochaine respiration, parce que je t'aime tellement que je veux que tu viennes à moi à chaque moment. Si je te donnais beaucoup trop, tu ne viendrais pas à moi aussi souvent. Maintenant, tu dois venir à moi à chaque seconde et venir te reposer sur moi à chaque moment. C'est vraiment une belle image. Je vais vous donner une image très pratique. Et ça marche un petit peu si vous êtes français et que vous utilisez votre imagination. Et c'est une image du lait au chocolat. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé ça ? Je voulais vous donner une image que vous pouvez vraiment facilement imaginer. Ça, c'est du lait. C'est du lait avec du sirop au chocolat dedans. Alors, on m'a dit, par ma référence française, qu'on ne met pas du sirop dans le lait, vous mettez plutôt de la poudre. Alors ça, c'est du lait froid. De là où je viens, on met le sirop dans le lait et il va en bas. Alors, est-ce que c'est un lait au chocolat ? Ouais. C'est du lait avec du chocolat dedans, n'est-ce pas ? Combien d'entre vous pensez que c'est du lait au chocolat ? Combien ne le pensez pas ? Qu'est-ce que vous devez faire pour passer de ça à ça ? Il faut le remuer. Il faut tellement le mélanger qu'il va commencer à affecter chaque molécule de lait pour que ça devienne du lait au chocolat. J'ai tout Jésus, j'ai pas la moitié de Jésus, j'ai pas la moitié du Saint-Esprit, j'ai tout le Saint-Esprit qui est en moi à cet instant. On ne peut pas séparer le Saint-Esprit de cette manière. C'est une personne entière, il vit en vous. Mais le problème, c'est que parfois le Saint-Esprit n'a pas tout de moi. Et pour qu'il ait tout de moi, il faut qu'on le mélange avec sa présence, avec mon temps avec lui, le fait que je le recherche, que je me soumette à lui. Quand le lait se soumet au chocolat, ça devient du lait au chocolat. Alors je sais que c'est juste une image, qu'elles ne sont pas parfaites, les images, mais je veux que vous pensiez à tout ça, le fait de permettre au Saint-Esprit que Jésus-Christ puisse affecter chaque aspect de vous et vous transformer en quelque chose de bon, quelque chose qui soit comme lui, quelque chose de magnifique. C'est ça qu'il fait. C'est ça la sanctification. Mais vous devez coopérer avec lui. Et il commence à faire le travail. Amen. Vous êtes chrétien, vous avez Jésus en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous à cet instant précis. Vous n'avez pas besoin de plus de lui. Il a besoin de plus de vous. Amen. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole, merci pour ta vérité. Seigneur, tu travailles dans nos cœurs, dans nos vies. Parfois c'est douloureux, parfois c'est très douloureux. C'est comme être sculpté avec un mallet. Mais le sculpteur nous transforme en quelque chose de magnifique. Il a une image très claire de ce qu'il veut faire de nous, et ce qu'on a besoin d'être, et ce qu'on veut être. Donc Seigneur, on ne veut pas uniquement que tu sois dans nos vies, on veut que tu prennes possession de toutes nos vies. Mène-nous vers ce lieu de soumission, d'être fait en ton image, de sanctification, car Seigneur, tu es le sanctificateur. On ne veut pas la sanctification sans toi, on ne peut pas le faire, c'est impossible. On peut uniquement le faire avec toi. On peut uniquement le faire car tu le fais en nous. Donc Seigneur, on soumet nos êtres à toi. Et Seigneur, s'il y a des choses qu'on doit encore te soumettre, on te les apporte. Amène-nous à ce lieu de soumission. Je ne laisse pas tomber, mais je me laisse aller à ta direction, à ta direction. Ton amour, ta grâce, et dans le nom de Jésus, amen.